Gilles Yabi, bonjour.
Bonjour.
Au Togo, les législatives viennent de se tenir, mais en l'absence de l'opposition, qui ne veut pas que le président Faure se représente en 2020 pour un quatrième mandat, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est justement un des cas peut-être les plus frappants et un peu désespérant, je dois dire. C'est le seul pays dans l'espace CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, qui n'a pas connu une véritable alternance démocratique. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est assez inquiétant et décevant que la CEDEAO en particulier ait donné une sorte d'avis positif sur ces élections législatives, qui à mon sens sont des élections parfaitement inutiles, puisqu'elles ne mettent pas fin à la crise. Et on a bien vu les manifestations de l'année dernière. On sait que le problème de fond, c'est une véritable alternance au Togo.
Vous parlez de la réaction très timide de la CEDEAO. Pensez-vous, comme certains, que le médiateur guinéen Alpha Condé n'est pas très pressé de demander au président Faure de renoncer à un quatrième mandat parce que lui-même envisage peut-être de modifier la constitution de son pays pour briguer un troisième mandat en 2020?
On peut sans doute faire cette interprétation, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que du côté de la conférence des chefs d'État, il n'y a pas nécessairement de véritable défenseur de ces principes essentiels pour la CEDEAO, mais aussi du côté de la commission de la CEDEAO qui essaie de porter des principes de gouvernance et de démocratie. Finalement, ce n'est pas très important de défendre les valeurs qui sont inscrites notamment dans le protocole additionnel sur la démocratie.
Trouvez-vous que le nouveau président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Brouet, est trop effacé par rapport à son prédécesseur, le Béninois Marcel Dessouza?
Là encore, je pense qu'il ne faut pas trop personnaliser. Ce qui est important, c'est d'avoir à la tête de la commission des personnes qui sont capables d'avoir un véritable espace d'autonomie. Et il est possible, effectivement, je ne connais pas personnellement l'actuel président de la commission, Monsieur Brou, mais c'est vrai que c'est un ancien ministre sous le président Ouattara, et on peut penser qu'il a effectivement un caractère plutôt effacé et que face à des chefs d'État, il n'a peut-être pas effectivement la capacité ou la volonté de défendre un point de vue qui ne serait pas, disons, le point de vue des présidents les plus influents en ce moment dans l'espace régional.
La présidentielle au Sénégal, c'est dans 2 mois, mais deux des principaux opposants, Karim Wade et Khalifa Sall, ne pourront sans doute pas s'y présenter à cause de leur condamnation par la justice. Est-ce que cela vous paraît normal?
C'est une question très délicate. Je crois que lorsqu'on suit un peu les dossiers de ces deux leaders politiques, je crois qu'il y a quand même le sentiment qu'ils avaient des choses à se reprocher et disons qu'il y avait une certaine légitimité à voir que la justice s'intéresse à eux et peut-être même qu'ils soient condamnés. Après, il y a aussi un sentiment très fort partagé qui a une instrumentalisation de la justice pour effectivement écarter des candidats importants. Et ça, c'est très gênant.
Voulez-vous dire que dans les poursuites judiciaires contre les présumés corrompus, il y a 2 poids, 2 mesures?
Bah, en tout cas, c'est un sentiment qui est très partagé par beaucoup de Sénégalais. Je pense au Bénin aussi, où on a une cour nouvelle sur l'enrichissement, sur les crimes économiques. Et on a aussi là encore le sentiment, oui, que c'est très bien de lutter contre les crimes économiques. Mais lorsqu'on a le sentiment qu'on a des juridictions qui sont spéciales et avec peu de recours ou pas du tout de recours, et que finalement les premières personnes visées sont toujours des acteurs politiques plutôt de l'opposition, évidemment, cela ne permet pas de crédibiliser le discours sur la lutte contre l'impunité.
Donc vous n'êtes pas convaincu par la très lourde condamnation prononcée contre l'opposant béninois Sébastien Ajavan?
À nouveau, là encore, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas des choses à se reprocher, mais au Sénégal comme au Bénin, je crois qu'il est important de rester vigilant sur le renforcement des institutions et sur la séparation des pouvoirs.
Au Cameroun, le président Biya a été officiellement réélu en octobre dernier pour un 7e mandat avec plus de 71% des voix. Vous y croyez?
Je crois que le Cameroun, comme une très grande majorité des pays d'Afrique centrale, lorsqu'on a des gouvernants qui sont en place pendant 3 ou 4 décennies, en fait, leurs pratiques finissent par avoir un impact très fort sur la société elle-même et finissent par, en fait, faire en sorte qu'on n'ait pas la masse critique, parfois, de personnes dans l'espace politique et même dans l'espace de la société civile qui soient capables de se battre pour un certain nombre de valeurs. Il y a un blocage qui est très important. Il y a un cercle vicieux, une sorte de piège sans fin où on a des gouvernants qui, à force d'avoir des pratiques qui entretiennent la corruption, mais finissent finalement par faire de la corruption quelque chose de très généralisé et finissent par rendre quasiment impossible la demande de changement par les populations.
Face à toutes ces alternances difficiles ou impossibles, le professeur Abdoulaye Batili parle de sécheresse démocratique. Vous approuvez?
Alors moi, j'essaie de ne jamais discuter de démocratie sans mettre cela en lien avec la gouvernance, l'usage des ressources. Si on ne comprend pas le lien entre la facilité avec laquelle les gouvernants ont accès aux ressources publiques et la volonté volonté, évidemment, de s'accrocher au pouvoir, évidemment, on ne peut pas vraiment comprendre l'absence de progrès démocratique. Si on prend un seul exemple, lorsqu'on a lu l'article de Bloomberg sur la République démocratique du Congo et qu'on voit, par exemple, la prise en charge d'une grande partie de l'économie congolaise par le clan autour du président Kabila, ben, on comprend très bien les enjeux de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo.
Alors, vous dénoncez ce qui se passe au Congo-Kinshasa, mais cette année 2018, il y a tout de même été marqué, le 8 août dernier, par la décision du président Kabila de renoncer à un troisième mandat.
Oui, il faut s'en réjouir, mais lorsqu'on comprend les intérêts du clan Kabila dans l'économie congolaise, ça veut dire que même si le président Kabila, finalement, ne pouvait pas se présenter à nouveau, mais on voit bien que le fait d'avoir un candidat de substitution, c'est que, très clairement, il y aura une volonté farouche de conserver le véritable pouvoir au niveau du clan, parce que c'est un enjeu de contrôle de ressources, c'est un enjeu vital, c'est une sorte de question de vie ou de mort, et donc il faut s'attendre effectivement à ce que ce soit très difficile d'avoir une véritable alternance au Congo, même si le président Kabila lui-même partait du pouvoir personnellement.
Gilles Yabi, merci.